France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1976, Italo Calvino vivait à Paris depuis près de 10 ans. Membre de l'Oulipo, qu'il avait rejoint 3 ans plus tôt, il était en France un écrivain reconnu, bien que tous ses récits n'aient pas encore alors été traduits en français. Cette année-là, il racontait son parcours littéraire à Jean Thibaudeau dans une série de 5 émissions diffusées sur France Culture. Dans les 3 derniers volets, il revenait sur plusieurs de ses romans, depuis Le Vicomte pourfendu, paru en 1951 en Italie, jusqu'au récent Château des Destins croisés, en passant notamment par Cosmic Comics et Temps Zéro, 2 textes que Jean Thibaudeau avait traduits en français pour les éditions du Seuil. Il insistait également sur l'importance de ses contes italiens, l'un de ses ouvrages les moins célèbres. Ce travail de collecte et d'écriture de contes issus de la tradition populaire avait occupé une place essentielle dans sa réflexion sur l'art d'écrire et la construction de cette œuvre qui comportait une part de réalisme à charge fantastique et de fantastique à charge réaliste, disait-il ici en citant son ami l'écrivain Elio Vittorini. Réalisme à charge fabuleuse, disait-il plus exactement, mais il faut l'entendre ici au sens de l'adjectif italien fabuloso, que rend sans doute plus justement en français le terme fantastique. Entretien avec Italo Calvino, première diffusion sur France Culture les 8, 9 et 10 décembre 1976. Amore mio, non piangere, se me ne vado via.
Après mon premier roman, j'essayais d'en écrire 2 autres. J'ai passé plusieurs années, disons jusqu'aux 50 ans, à rédiger des manuscrits qui ne persuadaient personne et qui sont restés dans mon tiroir. Et je vous ai dit qu'à l'époque, j'étais très engagé politiquement. J'étais présent dans les débats culturels du Parti communiste italien et aussi dans les débats littéraires pour une renaissance du roman en Italie, où la tradition romanesque n'a pas été très forte, même au siècle dernier. Et mon souci était de réussir un roman qui fut l'expression de mon idéal de roman et en même temps un roman qui pouvait avoir sa place entre les œuvres acceptées et honorées par le Parti communiste, bien sûr en ayant quelque chose de nouveau et d'utile à dire. Évidemment, il y avait quelque chose de faux dans cette ambition, ou à moi par rapport à cette ambition. C'est en fait que j'ai perdu des années à m'efforcer d'écrire des romans dans un sens réaliste, que heureusement je n'ai pas insisté à vouloir publier et J'ai toujours été très douteux sur ce que j'écris. En vieillissant, mes doutes m'ont fait commenter. Enfin, j'étais en train de me résigner à n'être que l'auteur d'un seul roman et de quelques nouvelles, quand, pour remonter ma déception, j'ai pris à écrire comme pour jouer, à composer un récit pour le pur plaisir d'écrire, comme Stevenson. Stevenson a toujours été pour moi l'idée du narrateur qui n'est autre chose que le plaisir de raconter, de se mouvoir dans un espace de fiction pure. Stevenson était déjà présent dans mon premier roman, mais c'était Stevenson plus autre chose. Eh bien, maintenant, j'écrivais sans souci d'une autre finalité. Je voulais seulement organiser des fantasmes de mon imagination. Et ça est devenu le Vicomte Profondu. Je parlais d'organiser mon imagination parce que c'est toujours une imagination organisée. Je crois que je n'ai jamais connu l'abandon automatique de l'écriture ou le flux inconscient des images. Les images viennent d'abord, ça oui, mais ils viennent toujours chacune avec un champ de signification possible ou au moins de fonctions possibles qui demandent d'être organisées au niveau du récit-discours. Selon les lois d'une structure narrative et selon l'essence d'un discours toujours implicite, toujours à réinterpréter. Les lecteurs français ont commencé à me lire avec le Vicomte Profondu, le Baron Perché, les Chevaliers Inexistants, et l'image qu'ils ont eue de mon travail a été plus unitaire et cohérente. Le rapport avec mes lecteurs en Italie a été plus mouvementé et j'ai soumis mes lecteurs à des sursauts assez brusques. Dans la fortune d'abord critique de cette production fabuleuse, d'abord critique et après de plus en plus de public, a certainement compté l'effet de surprise. Surprise pour tout, à commencer par moi-même, de voir paraître en 52, je crois, quand le roman italien était, ou se voulait, tout réaliste, un récit comme Le Vicomte Profondu, signé par un homme qui, jusqu'alors, était considéré celui d'une réaliste irréductible. Je le croyais moi-même d'être réaliste. J'étais sûr que Le Vicomte Profondu n'était qu'un divertissement, une vacance. Et pendant plusieurs années, j'ai été porté à alterner la publication d'une œuvre fabuleuse à une œuvre liée à l'expérience vécue. Il y a la définition que Elio Vittorini donna de mon œuvre, je crois en 52-53, il distinguait en moi un réalisme à charge fabuleuse et un fabuleux à charge réaliste. Cette définition dialectique a été un point de repère presque obligatoire pour la critique italienne jusqu'au moment qu'on a perdu tout espoir de distinguer les deux pôles, et je peux dire d'avoir tellement brouillé les cartes que moi-même je ne pouvais plus dire où est-ce que je suis.
En même temps, dans ces mêmes années, vous faites tout un travail culturel qui n'est pas connu en France non plus. Je pense par exemple à l'édition que vous faites des fables italiennes.
Oui. Et mon travail sur les contes de la tradition populaire a eu une place considérable dans mes réflexions sur l'art d'écrire. J'ai toujours porté un grand intérêt pour ce que André Jol appelait les formes simples de la narration, notamment de la narration orale. Mais j'ai été poussé à m'intéresser à fond aux contes de fées bien avant que ça devienne un thème central des études de poétique avec le structuralisme. J'ai entrepris mon travail sur les fiabes italiennes, les fables italiennes, dans les années 50 pour une commande éditoriale. La maison d'édition chez laquelle j'ai travaillé avait l'habitude de publier chaque année, pour les fêtes, un classique de contes de fées. Les frères Grimm, le recueil de contes de fées russes d'Afanasieff, celui norvégien de Asbjørnsen, le conte de Perrault et de Madame d'Aulnoy, mais pas comme livre pour enfants, mais dans des traductions complètes, éditions soignées par des spécialistes. Et il nous manquait une récolte italienne qui soit très représentative de notre folklore narratif. Les spécialistes des traditions populaires nous disaient qu'il y avait des très beaux recueils publiés par les folkloristes du siècle dernier, par exemple par Giuseppe Pitre en Sicile, par Gerardo Nerucci en Toscane, et ainsi pour presque toutes les régions d'Italie, avec des textes en dialecte écrits sous dictée des vieilles grand-mères paysannes et publiés avec des notes linguistiques ou de références à contes rassemblant dans d'autres pays. Bref, des éditions scientifiques et qui étaient consultées seulement par les rares spécialistes de ce genre d'études. Aucune de ces recueils s'est prêtée pour une édition telle que nous la voulions. Et alors, Giulio Einaudi me proposa la tâche de tirer de tous ces matériaux épars un recueil général des contes de fées de la tradition populaire italienne. J'ai travaillé pendant quelques années. J'ai lu des milliers et des milliers de contes de fées. Les contes de fées se ressemblent toujours, sont des variations sur des thèmes toujours pareils, mais dans le même temps, on y trouve souvent une variante qui a un caractère, un détail inattendu, une référence à des usages locaux, un parfum spécial du terroir. En lisant, je cherchais de classifier cette énorme masse de matériel et de choisir les variantes qui avaient une quelque spécificité italienne et régionale, une beauté ou une curiosité spéciale de récit. Mon choix s'orienta sur deux principes: représenter toutes les régions d'Italie avec des textes qui donnent une idée d'une façon particulière d'imaginer et de raconter, propre de la région, et à représenter tous les types de contes qui faisaient partie de la tradition populaire italienne. Une fois ce choix fait, j'en faisais une rédaction qui était le plus fidèle aux documents que j'ai possédés. S'il était un texte en dialecte, je le traduisais en italien, le plus proche possible de l'original dialectal. J'ai dû faire aussi quelques études dialectologiques parce que la variété des dialectes du nord et du sud est énorme. Et tant au nord qu'en au sud, il y a des dialectes très, très difficiles à comprendre. Parfois, le texte que j'avais, c'était seulement une transcription en italien. Et alors, je devais libérer la langue du vernis littéraire que le transcripteur lui avait donné, le goût de l'époque qui s'était déposé sur les textes, pour reconstituer une fraîcheur populaire. Parfois, j'avais seulement un résumé en italien, et alors c'était l'occasion de me prendre quelques libertés, d'enrichir un peu le texte, toujours sur la base de mon expérience de textes similaires. Dans tout ça, je n'ai perdu jamais de vue les raisons littéraires qui m'avaient attiré vers les contes de fées, c'est-à-dire le dessin linéaire du récit, une fonctionnalité et une essentialité, une énergie, et le langage, lui aussi, toute efficacité et économie. C'est-à-dire, j'ai proposé les fiabes, les contes de fées, comme un modèle stylistique de récit. Ainsi, pour les fêtes de fin d'année du 1956, j'ai publié ce gros volume des fiabes italiens, avec 200 contes de la tradition populaire, avec une introduction dans laquelle j'ai cherché de définir la valeur esthétique et historique de cet univers de l'imagination paysanne que j'avais exploré, et au fond du volume, des notes, que personne d'ailleurs n'a jamais lues, une note pour chacune des 200 fables, où j'ai donné mes sources, j'ai expliqué les raisons de mon choix, la nature de mon intervention, et j'ai donné les références de tous les textes similaires de ce type de contes que j'avais rencontrés dans ma recherche. Les fiabes italiennes est une œuvre à moitié de recherche érudite et à moitié de création. On a du mal à la considérer comme œuvre scientifique parce que la création, l'exercice de style, la main de l'écrivain joue un rôle assez prépondérant. Mais à ce moment, mon livre est couramment employé comme un répertoire par tous ceux qui font des études sur les contes populaires. Et comme livre à lire, bien, on peut oublier l'appareil savant et l'employer pour lire des contes aux enfants. Et dans ce sens, il a eu une énorme fortune en Italie au long des derniers 20 ans, a été republié innombrables fois en édition reliée, en livre de poche, ou morcelé en album illustré pour les enfants. Ainsi, je peux dire que pour un très large partie des publics italiens, pour ce livre aussi, je suis surtout l'auteur de fiabes italiennes, ou je ne suis que l'auteur de fiabes italiennes. Attiré par les contes de fées, par ce que j'appelle l'économie littéraire, c'est-à-dire un récit où tout est fonctionnel, où où la linéarité du dessin fait partie du message de l'œuvre. Et j'étais intéressé au conte de fées comme modèle de toute narration. Il y a un rapport très étroit entre le roman cavaleresque, entre les chansons des gestes et les contes de fées. Et maintenant, il y a un grand intérêt critique pour tout ce qui est littérature populaire. On voit que c'est un domaine qui est le domaine de la mythologie populaire. Mon intérêt pour le roman populaire, pour la littérature orale, est lié aussi à mon intérêt pour le mythe, pour la production mythique à tous les niveaux et en tous les temps. Et au moment que j'ai fait mon travail sur les contes italiens, c'est-à-dire en 55-56, il n'existait pas un intérêt culturel du genre qu'on porte aujourd'hui à ces problèmes. Il n'existait pas dans la culture italienne, mais même pas encore dans la culture française, où il y avait déjà tous les précédents de cet intérêt, mais il n'avait pas le relief qui a pris une dizaine d'années après. C'était à ce temps, c'était l'œuvre d'un savant américain, Stittles Thompson, qui constituait mon background théorique. C'était les classifications de l'école finnoise, les catalogues de Arne Thompson, avec tout le catalogue des types et des motifs. Alors il y avait ce type d'études géographiques sur la diffusion de chaque type de conte de fées, ça s'appelle l'école géographique historique ou école finnoise, et il y avait des interprétations anthropologiques, ethnologiques. Et moi, je connaissais Vladimir Prop pour son livre sur les racines historiques de contes de fées, qui avait été publié en Italie dans la collection d'études ethnologiques dirigée par Cesare Pavese et Ernesto De Martino, et où le grand folkloriste russe, qui à cette époque personne ne connaissait à l'Occident, avait publié ses deuxièmes livres, qui étaient très critiqués par les autorités de son pays, sur les origines préhistoriques de contes. Chaque conte de fées était un document sur les rites d'initiation de jeunes hommes et de jeunes femmes dans les tribus de chasseurs de l'âge paléolithique. C'était une vision fascinante qui ouvrait au-delà de ces modestes historiettes enfantines une antiquité vertigineuse à l'origine même du genre humain, est expliqué ainsi la similarité des récits dans les traditions de tous les peuples. Or, quand je faisais mon exploration de contes italiens, je me trouvais continuellement face à des problèmes de classification. Et pour ficher tous mes matériaux, je faisais recours à une schématisation et classification et numération établie à mon propre usage. C'est-à-dire que j'ai effleuré dans mon bricolage les méthodes morphologiques de Prop.
Vous disiez que, avant d'arriver au Vicomte Pourfendu, etc., vous aviez, pendant plusieurs années, essayé de faire du réalisme sans y parvenir, parce que vous aviez la volonté, disons, d'accomplir une sorte de travail civique, culturel. Il me semble que lorsque vous faites cette collection des fables italiennes, vous accomplissez un travail culturel, populaire, dans un sens qui pourrait aussi bien être celui de Gramsci.
Oui, certainement. toutes les suggestions de Gramsci sur une littérature populaire italienne sur la faute d'une littérature populaire en Italie était très, très lue, très commentée à cette époque-là, et c'est l'horizon dans lequel je me mouvais. Oui, et je crois que d'avoir fait un travail important du point de vue linguistique avec les fables, c'est un texte d'un Italien très lié au parler, très lié aux humeurs du dialecte, et dans le même temps très, très simple, très linéaire, très moderne. Le problème d'un Italien parler et d'un Italien aussi lié aux humours du dialecte a été toujours un problème de la littérature italienne et de l'après-guerre aussi. Il y avait Pavese qui écrivait un Italien très lié au piémontais, il y avait Gadda qui suivait une autre ligne qui était celle d'une exploitation baroque du dialecte. C'est un écrivain polylinguistique qui emploie différents niveaux de langage en même temps.
Amore mio, non piangere, se me ne vado via.
Travail, il y a un intérêt, disons, pour la fabrication de mythes, pour la fabrication de narrations, et je me suis interrogé sur la cosmogonie comme récit mythique, comme discours à travers les images, comme c'était pour l'homme primitif. Les questions sur les origines du monde, du jour et de la nuit, du soleil, de la lune, des étoiles, ont été les premières questions que l'homme a dû se poser pour établir sa place au milieu de choses. Mais il disposait d'un nombre limité de mots et de concepts qui étaient les bêtes de la forêt et les plantes qu'il mangeait ou qu'il empoisonnait, les opérations de la chasse et de la cueillette. Et c'est comme ça que l'univers des origines est un théâtre d'histoires parfois drôles. Les premières chaînes de causes et d'effets sont des jeux de contrastes comiques. Tandis que maintenant, les instruments mentaux que nous employons pour comprendre le monde sont tout à fait différents. La science moderne est fondée sur un discours abstrait, sur un discours de logique, sur les corrections que le raisonnement logique apporte à l'observation et que l'observation apporte au raisonnement logique. Et tout ça tend à expulsé les images du discours. Moi, j'ai cherché de, avec Cosmic Comics, de réinventer des sorts, des mythes cosmogoniques en partant de la science moderne, en partant en marge d'observations que je lisais dans des livres de sciences modernes. Et j'ai laissé que des images spontanément jaillissent de mon esprit et qui devenaient récits. Je commençais avec la Lune comme hommage au poète de la Lune dans la littérature italienne, de Dante à l'Arioste, même à Galileo, qui a été un grand savant, mais aussi un écrivain d'une grande poésie, jusqu'à Leopardi. Et la Lune, qui était une fois une image d'éloignement, d'étrangeté, a maintenant changé de signe. Et il est devenu voisine de la même substance que la Terre. Et pour ça, j'ai commencé à écrire des récits sur la Lune, et de ça, je suis passé à écrire des récits sur les étoiles, sur l'histoire de la Terre, aussi sur l'évolution. À un certain moment, j'ai essayé de porter cet esprit plus dans le langage que dans l'imagination. Et tout ça, je l'ai fait à travers un personnage qui était seulement une voix, un personnage d'un témoin qui s'appelle avec un nom qui est imprononçable parce qu'il est fait seulement de consonnes.
Et on peut toujours l'appeler Kwefk.
On peut l'appeler Kwefk, oui. Et, qui était toujours là. Il était un regard humain quand l'homme n'était pas là, quand les animaux n'étaient pas là, quand la terre n'était pas là. Et à travers cette voix, qui est devenue presque la voix de la matière même, j'ai fait divers expériments de récits de ce genre. À un certain moment, j'ai eu besoin de rendre cette voix qui était peut-être trop humaine, de la rendre plus froid, plus géométrique. Et alors j'ai écrit les derniers récits de Temps Zéro, qui sont un passage ou un retour à un langage plus froid.
Dans ces Cosmic Comics, il y a d'une part toutes les références culturelles, par exemple à la poésie italienne. Il y a aussi une sorte de référence au quotidien italien. Je pense que, par exemple, sur la Lune, on trouve du fromage blanc, comme on en trouve dans certaines boutiques italiennes.
Oui.
Il y a aussi des références, de temps à autre, au monde moderne, cette fois-ci, au monde, disons, international, un aéroport nord-américain, n'importe quoi. Et enfin, il y a cette allégorie de l'écriture qu'on retrouve très souvent chez vous. Et par exemple, Temps Zéro se termine, curieusement, au château d'If. Comment ?
Oui, c'est une nouvelle que j'écris aussi, que j'écris sur Monte Cristo. Il y a le château d'If et Edmond Dantès qui est prisonnier là, et l'abbé Faria, et ils étudient le plan de leur évasion, et ils se demandent quelles des variantes possibles de fuite sera la bonne. L'abbé Faria crée des tunnels pour sortir de la forteresse, mais il se trompe continuellement et il finit pour se trouver dans des cellules toujours plus profondes. Sur la base des erreurs de Faria, Dantès cherche de dessiner une carte de la forteresse. Et Faria, avec ses tentatives, tend à réaliser la fuite parfaite. Dantès tend à imaginer la prison parfaite, celle de laquelle on ne peut pas s'enfuir. Le dernier paragraphe du livre, dans votre traduction, Jean Thibaudeau, dit « Si par la pensée, je réussis à construire une forteresse d'où il est impossible de fuir, cette forteresse pensée sera ou bien semblable à la véritable, et dans ce cas, il est sûr que je ne m'enfuirai jamais d'ici, mais d'où aurais-je trouvé la tranquillité de qui se trouve où il est parce qu'il ne peut être ailleurs? Ou bien, ce sera une forteresse d'où la fuite sera plus impossible encore que d'ici. Et alors, ce sera le signe qu'ici, une chance de fuir existe. Il suffira de déterminer les points où la forteresse pensée ne coïncide pas avec la véritable pour la trouver. » Ça, c'est la conclusion la moins pessimiste que j'ai trouvée pour ce livre.
Vous avez commencé à raconter comment vous en étiez venu à écrire toutes les histoires des Cosmic Comics. Et puis on aboutit finalement, après la mort de Quefk, n'est-ce pas, à cette espèce de fable hyper littéraire, dans des livres qui rassemblent des histoires courtes, mais dont il me semble qu'elles font un système. Au contraire, par exemple, des aventures qu'on peut lire, me semble-t-il, indépendamment les unes des autres. Il me semble que dans tous vos derniers livres, plus les textes sont brefs par eux-mêmes, mais par exemple, dans Les villes invisibles, c'est évident, plus, au contraire, et en même temps, vous tentez d'organiser un livre. C'est pourquoi je vous demandais comment cette allégorie du château d'If peut-elle être la conclusion, en somme, des Cosmic Comics?
Oui, dans l'allégorie du château d'If peut être une allégorie d'un système, et la carte qu'on va dresser du château d'If, l'allégorie d'un système de connaissances. Et j'ai toujours tendu à la série dans ma production. Quand j'écris un récit, une nouvelle, j'ai toujours envie d'en faire une série, de faire des variations, et aussi de couvrir tout un champ. Je peux dire que je tends à l'encyclopédie, une encyclopédie par thème. C'est ainsi que j'ai commencé à un certain moment à écrire des textes très courts sur des villes imaginaires. Et ça est devenu un livre. Et c'est un livre à quel j'ai donné une forme fermé, mais je ne suis pas sûr d'avoir fini encore, parce qu'il m'arrive encore d'écrire des villes, de donner à des expériences, à des pensées, la forme de ce texte très court. Et oui, mes livres sont parfois des livres qui demandent une suite. Et alors, aussi Cosmicomics, c'est un livre que je suis en train de réorganiser avec Temps Zéro pour en faire une espèce de poème à la Lucrèce sur les choses de la nature. Aussi mes récits comme, disons, La journée d'un scrutateur, je les voyais dans un cadre plus organisé. C'était des chroniques des années 50. J'avais envie d'en écrire d'autres, mais je suis un travailleur très lent. Je dois dire que quand j'ai pris l'élan, j'écris très vite. Mais j'ai de longs temps morts. J'ai de la peine à commencer, à me convaincre qu'une chose vaut la peine d'être écrite et me lancer dans cette direction. Et c'est pour ça que la profession de l'écrivain est très difficile comme profession, parce que il faut toujours penser à ces longs temps morts. Mon rêve serait que chaque livre soit le premier livre que j'écris. Et j'ai regret, dans une certaine façon, de n'avoir pas écrit mes livres sous des noms de plumes différents.
Sous des pseudonymes différents.
Des pseudonymes différents, oui. Et ça, du point de vue, disons, éditorial, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'on vend toujours l'auteur. Et si je change de nom chaque livre, je n'aurai pas mon public. Mais c'est besoin de recommencer chaque fois, et une chose que je sens très fort.
Alors Italo Calvino, vous avez quelque chose comme un problème d'identité ?
Oui, j'aime beaucoup les auteurs anonymes. Je crois que les auteurs duquel on ne connaît rien ont une force majeure. Disons Homer, disons l'auteur des Mille et une nuits, et disons Shakespeare même, duquel on ne sait pas grand-chose, ou bien on sait des choses qui n'importent beaucoup, et duquel on a un portrait et qui est presque une stéréotype qui ne dit rien de ce qui était l'homme. Que l'auteur parle à travers ses œuvres, je crois que c'est un grand avantage, et qu'il n'y a pas cet encombrement qui est la personne. Une fois, il y avait des auteurs très populaires. Peut-être, je crois que c'était la condition de l'auteur populaire qui était seulement un nom sur une couverture. Parfois, il ne se connaissait pas même le prénom, était une initiale pointée, et derrière de ça, le lecteur pouvait avoir un rapport plus vrai. Et j'ai toujours eu du mal à jouer le rôle que dans notre société l'écrivain doit jouer.
Vous avez parlé de cette espèce de ces personnages qui disent « je », un peu à l'écart, ou même complètement dissimulé, pendant longtemps, dans vos trois romans que vous dites fabuleux. Mais dans ces derniers livres, les Cosmicomics ou les Villes Invisibles, il y a Quefk, le conteur, de tous les temps, ou encore il y a Marco Polo, qui est allé dans toutes les villes et qui semble être l'équivalent, à l'intérieur du livre, de l'écrivain anonyme que vous voudriez être.
Je crois que votre observation est juste. Coef est une voix anonyme, la voix même du temps, la voix du récit même, et Marco Polo dans Les Villes Invisibles aussi. Et je sens de plus en plus le besoin de filtrer les récits à travers une voix de ce genre-là qui me donne une liberté spéciale. Si je parle avec ma première personne de l'état civil, alors c'est une autre chose. Mais je crois que mon rêve est d'arriver à un jeu, à un moi-même qui soit complètement anonyme.
Dans les tarots, il y a un personnage qui dit « je » à un certain moment, mais qui ne peut plus raconter son histoire. Vous pourriez un peu expliquer comment fonctionnent les tarots?
Oui, dans la première série des tarots, dans le château, à un certain moment, j'avais commencé avec la première personne et il n'y avait pas une histoire de laquelle je pouvais dire « ça, c'est mon histoire ». Alors j'ai dit que mon histoire est perdu entre les autres. Et je dois dire que j'écris le deuxième texte, celui de Tarot de Marseille, La Taverne de Destin Croisé, aussi parce que j'avais envie de faire mes propres tarots, de raconter mon histoire. Mais mon histoire devient un peu une histoire anonyme de l'écrivain.
Alors je fais un peu lecture de ce passage de la taverne des destins croisés. J'ouvre la bouche, je veux articuler un mot, je gémis. Ce serait le moment de raconter la mienne. Il est clair que les cartes de ces deux-là sont celles de mon histoire aussi. L'histoire qui m'a conduit jusqu'ici, une série de mauvaises rencontres, qui n'est peut-être qu'une série de rencontres manquées. Pour commencer, je dois attirer l'attention sur la carte dite du roi de bâton, où on voit ainsi un personnage qui, si personne ne le revendique, pourrait très bien être moi. D'autant qu'il pointe vers le bas un instrument pointu, comme je fais moi en ce moment. Et en effet, cet instrument, si on le regarde bien, ressemble à un stylo ou un calame, ou un crayon bien taillé, ou une plume sergent-major ou un stylo bille. Et s'il paraît d'une taille disproportionnée, ce sera pour signifier l'importance que l'instrument d'écriture en cause revêt dans l'existence du sédentaire personnage en question.
Amore mio, non piangere, se me ne vado via. Io lascio la risaia, ritorno a casa mia. Ragazzo mio, non piangere, se me ne va lontano. Ti scriverò una lettera per dirti che ti amo. Vedo laggiù fra gli alberi la bianca mia casetta. Mamma, papà, non piangere, se sono consumata.
j'ai essayé de parler de moi. Je crois que j'ai parlé peu de moi. Je parlais de l'écrivain. Je parlais de l'écriture. J'ai fait aussi une sorte d'autobiographie. Et j'ai parlé d'un moment stendhalien dans mes intentions littéraires et existentielles, et qui à un certain moment finit, et je me retrouve dans l'image, je me reconnais dans l'image de l'ermite. Et à un certain moment, j'ai choisi comme mes cartes le chevalier d'épée pour le rêve de combat de ma jeunesse, l'ermite comme image de l'homme à livre, de l'homme qui vit dans sa bibliothèque. Et après, je me reconnais dans la carte du bateleur, c'est-à-dire comme un prestidigitateur, un illusionniste qui dépose sur la table un certain nombre de figures et les déplace et le réunit et obtient un certain nombre d'effets. Scarta un tarocco, scarta l'altro, mi ritrovo con poche carte in mano. Il cavaliere di spade, l'eremita, il bagatto sono sempre io, come di volta in volta mi sono immaginato d'essere mentre continuo a star seduto, menando la penna su e giù per il foglio. Per sentieri d'inchiostro si allontana al galoppo lo slancio guerriero della giovinezza, l'ansia esistenziale, l'energia dell'avventura, spesi in una carneficina di cancellature e fogli appallottolati. E nella carta che segue mi ritrovo nei panni di un vecchio monaco, segregato da anni nella sua cella, topo di biblioteca che perlustra a lume di lanterna una sapienza dimenticata tra le note a piedi pagina e i rimandi degli indici analitici. Forse è arrivato il momento di ammettere che il tarocco numero uno è il solo che rappresenta onestamente quello che sono riuscito a essere, un giocoliere o illusionista che dispone sul suo banco da fiera un certo numero di figure e spostandole, connettendole e scambiandole ottiene un certo numero di effetti. Et je suivis dans les images du ermite et du chevalier d'épée, et j'ai reconnu dans ces images deux thèmes de la peinture moyenâgeuse et de la Renaissance, et qui sont très, très chers à mon esprit. L'ermite, c'est Saint Jérôme. Le chevalier, c'est Saint Georges. Et cette proximité des deux figures m'a fait penser à une salle à Venise, chez Saint Giorgio degli Schiavoni, où il y a le cycle de peinture de Carpaccio, de vie de Saint-Georges et de Saint-Jérôme. Et alors j'ai essayé de le lire comme une vie unique d'un seul personnage qui a été guerrier et qui a tué le dragon et qui est devenu ermite, et il a vécu avec un lion. Mais l'histoire, ça n'était pas assez convaincant. Ça devenait une histoire édifiante, de triomphe de la méditation sur l'action. Alors j'ai décidé que ces personnages, les deux personnages étaient les mêmes personnages, mais ils étaient les deux personnages à la fois, qu'il faut être en même temps Saint-Georges et Saint-Jérôme. C'est-à-dire qu'il faut battre les dragons, un dragon qui est aussi en nous-mêmes, et qu'il faut vivre avec lui. Il faut vivre avec la fauve qui est dans nous-mêmes, le lion de Saint-Jérôme. Et c'est dans la coexistence contemporaine de ces deux personnages, de ces deux idéaux de vie et de morale, que j'ai reconnu un modèle, disons. Et bien regardez, l'élément commun aux deux histoires est dans la relation avec une bête féroce, dragon ennemi ou lion ami. Le dragon menace la ville, le lion la solitude. Nous pouvons le considérer comme un seul animal, la bête féroce que nous rencontrons tout aussi bien au dehors qu'au dedans de nous, en public qu'en privé. Il existe une façon coupable d'habiter la ville, accepter les conditions de la bête féroce en lui donnant en pâture nos enfants. Il existe une façon coupable d'habiter la solitude, se croire à l'abri parce que la bête féroce a été rendue inoffensive par une épine dans la patte. Le héros de l'histoire est celui-là qui en ville pointe sa lance dans la gueule du dragon et que dans la solitude conserve auprès de lui un lion en toute sa force, l'acceptant comme gardien et génie domestique, mais sans se dissimuler sa nature de fauve. En ce moment, l'écrivain a l'illusion d'avoir une fonction civique. Et je dis illusion parce que on est continuellement sollicité à parler, à s'exprimer sur toutes les questions. Et dans cette situation, en Italie, par exemple, l'écrivain est toujours sollicité à écrire sur les journaux, à participer à des tables rondes, à paraître à la télévision, et il parle de tout. C'est un moment où la politique est peut-être insatisfaite de son propre langage. Le langage de la politique est toujours plus abstrait, plus difficile à suivre. Et alors, on sent le besoin de l'écrivain qui dit des choses avec un autre langage, un langage plus direct, plus simple, parfois provocateur, mais c'est une provocation qui est très bien acceptée. Et moi, je me méfie de ça, parce que je ne crois pas que ce soit un vrai emploi de la littérature, ça. Parce que ça vient à définir la littérature comme un discours, le discours humain, le discours de sentiment, que c'est un discours qu'on connaît déjà, c'est confirmer un certain rôle de la littérature comme illustration des éternels sentiments humains. Et je crois que l'écrivain devrait dire quelque chose d'autre à la politique même, c'est-à-dire représenter sa propre rigueur, la propre rigueur de la démarche littéraire et une mise en question du langage. Je crois que aujourd'hui, ce qui compte n'est pas le rapport de la littérature avec l'autorité politique qui a dominé pendant, disons, toutes les années de l'après-guerre et qui domine encore dans les pays et dans les pays autoritaires, aussi bien dans les pays du socialisme autoritaire, mais c'est le rapport avec la possible création d'un public de lecteurs. On va vers une situation où les leaders politiques ne tiennent plus en main la situation. C'est une société de grand nombre, c'est une société toujours plus difficile à gouverner, et la littérature doit être un instrument de autoconnaissance de la société, un instrument essentiel parce qu'il est lié aux origines de plusieurs genres de connaissances, de plusieurs codes, de plusieurs procédés critiques. Je crois qu'il y a au moins deux fausses façons de considérer un usage politique de la littérature. Mais il y a aussi au moins deux façons justes de le considérer. C'est faux, premier, prétendre que la littérature doit illustrer des vérités que la politique contient en soi. Ça est faux, premier, pour la politique, parce que c'est considérer la politique comme quelque chose de fixé, de sûr de soi, tandis que la politique, c'est une recherche continuelle. Et c'est faux pour la littérature, parce que donne à la littérature une fonction ornementale, une fonction d'exposition et pas une fonction de recherche. Il y a aussi une autre façon d'entendre la fonction de la littérature par rapport à la politique, et c'est celle de laquelle je parlais avant, c'est de considérer la littérature comme un dépôt de sentiments humains éternels que la politique tend à oublier, et alors il faut que la littérature vienne à rappeler ce sentiment humain. Et ça peut-être est un usage meilleur du premier, mais il est faux aussi, parce que la littérature est vue comme un facteur de conservation et parfois de régression. Selon moi, à ces deux façons fausses, se voir fausse de voir l'usage politique de la littérature, on peut contraposer deux voies vraies. La première est de que la littérature doit donner une voix à tous ceux qui n'a pas encore une voix. L'écrivain, dans sa solitude, peut explorer d'autres solitudes, peut explorer les voies de l'inconscient, peut explorer tout ça qui n'a pas encore une voix. Mais aussi, ça peut valoir aussi dans un aspect. Moi, je ne suis pas contre aussi à des fonctions documentaire de la littérature, quand c'est des découvertes de quelque chose qui n'a pas encore été dit. Il y a la vérité de livres. Alors, donner une voix à tout ce qui n'a pas encore une voix, à tout ce que c'est une voix cachée, alors, je crois que ça, c'est dans tous les régimes la vraie fonction de l'écrivain, la vraie fonction de l'écrivain face à la politique qui donne voix à seulement un certain type de discours. Il y a aussi un autre usage de politique de la littérature, qui c'est d'imposer des modèles de langage, des modèles de vision, des modèles d'imagination, des modèles de travail mental, des modèles de critique. Et il doit être des modèles qui sont de valeur aussi, des modèles esthétiques et éthiques dans le même temps, et qui sont essentiels dans tout projet, surtout politique. Ça est la fonction du travail formel de la littérature, du travail stylistique, du langage et des images. Et je dirais qu'il y a aussi un troisième usage bon de la littérature, et c'est la force critique avec laquelle la littérature se voit. Si une fois la littérature était considérée comme le miroir du monde, maintenant nous savons que les livres sont construits par des mots, par des procédés littéraires, par des mythes, qu'il y a une partie collective de chaque œuvre littéraire, une partie qui fait partie d'un inconscient collectif, de déterminations qui vont de celle biologique à celle sociale. Et la littérature aujourd'hui méfie de soi-même parce qu'elle peut analyser soi-même. Et ça, c'est une leçon aussi pour la politique. La littérature peut apprendre à la politique à méfier de soi-même, à méfier de ses propres instruments, à les analyser, à être conscient de ce qui sont les composants de son propre discours.
Thank you.
C'était « Entretien avec Italo Calvino » par Jean Thibaudot, troisième, quatrième et cinquième volet d'une série de cinq émissions diffusées pour la première fois sur France Culture les 8, 9 et 10 décembre 1976.